Christiane Devers.
Bonjour le Québec. Donc je me présente, je suis Christiane Weber, directrice de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire de géographie à Strasbourg dont le nom est Image Ville Environnement. Donc on m'a demandé de venir vous parler de la ville comme un système et je vais essayer de faire ça pour les quelques minutes de ma présentation, sachant que je vais certainement plus poser des questions que donner des réponses. Ça fait, je pense, une vingtaine d'années que je travaille sur la ville et je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses définitives. Au contraire, donc on va essayer de voir ensemble comment on peut en discuter. Donc rapidement, quelques points particuliers de ces systèmes. Je pense que beaucoup d'entre vous on a abordé la systémique. Donc un système comme la ville est un système finalisé, bien entendu. Dynamique, bien entendu, puisqu'il a une certaine ancienneté et normalement il doit nous porter jusqu'au dans le futur. Il est ouvert. Une ville est forcément traversée par des intrants et des extrants. Et il tend vers un certain état d'équilibre, sachant que l'équilibre idéal n'est jamais atteint. L'important, c'est que automatiquement, en pensant systémique et en pensant système, enfin, socio-éco-système, je viendrai là-dessus, au niveau de la ville, on a à la fois les deux échelles. On a une échelle globale qui est importante parce que l'échelle globale permet non seulement de considérer la ville comme un objet, mais aussi comme un sujet qui va intervenir dans des décisions territoriales, puisqu'on on associe très souvent le pouvoir à la communauté urbaine, à la ville de Paris, à quelque chose. Et il est fait de composants variés. Et c'est ça, c'est là où ça commence à coincer. Et l'intérêt des interactions que l'on analyse entre ces différentes composants font que les effets cumulatifs qui sont abordés, qui sont identifiés au sein de ces composants, permettent d'identifier parfois des propriétés émergentes. Et le travail du local au global que l'on fait en analysant les systèmes permet de mieux caractériser ces composantes, la façon dont elles fonctionnent et éventuellement les points de blocage qui peuvent exister au sein de ce socio-écosystème. Sociologie, écologie et système. L'intérêt aussi, c'est le principe d'auto-organisation. Dans les villes, comme dans d'autres types de systèmes, vous avez la possibilité de voir émerger des principes d'auto-organisation lorsque, par exemple, il y a défaillance de l'autorité. Ça se voit peut-être moins dans les pays développés, industriels, mais ça se voit beaucoup dans les pays en voie de développement où, parce qu'il y a défaillance, parce qu'il y a oubli ou parce qu'il y a perturbation liée à une guerre ou autre chose, la population se mobilise par quartier, avec une ONG ou pas, avec un support éventuellement externe pour pouvoir réaliser simplement, par exemple, le nettoyage des déchets ou l'accès à l'eau ou la gestion de l'eau par rapport à une nécessité d'irrigation. Donc ces capacités d'auto-organisation, elles se voient dans le système ville et elles sont très importantes et très intéressantes aussi. Et ça se voit maintenant aussi chez nous lorsque l'on étudie la mobilisation. La mobilisation de la population pour des écoquartiers, la mobilisation pour éventuellement s'approprier une action contre quelque chose, puisqu'en général, c'est là qu'on les voit apparaître plus facilement. Et donc, ces effets d'auto-organisation sont, j'allais dire, une sorte de respiration aussi au niveau du système. Par contre, pour qu'il y ait éventuellement visibilité de défaillance, il faut qu'on puisse essayer d'identifier des seuils au-delà duquel ça ne marche plus ou des contrôles qui ne fonctionnent plus, qui ne permettent plus d'avoir éventuellement des verrous ou qui laissent passer certains types de flux ou de mauvaise qualité de l'eau, par exemple, ou quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait possibilité de contrôler. Enfin, l'intérêt aussi, c'est qu'il n'y a pas de causalité, en fait. Les causalités sont non linéaires, je veux dire, au niveau des interactions, et très souvent, on a affaire à des boucles. Et c'est peut-être là que ça devient compliqué en ville, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours comment analyser ces boucles de rétroaction. Oups, pardon. Donc rapidement, pour vous montrer ce que peut être ces systèmes de façon schématique au niveau intrant et extrant. Donc, je ne suis pas une spécialiste du métabolisme. Hein. Je pense que Sabine Barle vous en parlerait nettement mieux que moi. Ça vous donne simplement une idée de la façon dont on peut, entre guillemets, analyser des flux entrants, que ce soit des flux en termes de combustible, d'aliments ou d'eau, dont on peut les valoriser, les identifier. Ils sont quantifiables, ils sont d'un certain type, ils peuvent être de bonne ou de mauvaise qualité, ils peuvent être suffisants ou insuffisants, si je parle de l'eau, et bien entendu, la façon dont la ville va renvoyer autour d'elle, un hinterland, éventuellement, voire de façon beaucoup plus dramatique, j'allais dire, va exporter certains de ces déchets, donc je pense à des histoires par rapport à l'Afrique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, dans la façon dont on va se débarrasser, pour recyclage ou non, d'un certain nombre de nos déchets. Donc, prendre le système comme une plateforme, comme un outil d'analyse, ça veut dire aussi être capable de mesurer tout ça. Dans l'histoire des villes, l'hinterland, c'est-à-dire l'alentour sur lequel on se reposait pour avoir justement accès à ces ressources-là, s'est agrandi au fur et à mesure des capacités technologiques. Lorsqu'il fallait porter, on est allé près. À partir du moment où vous avez des voitures, où vous avez du ferroutage, où vous avez des avions, vous pouvez aller de plus en plus loin pour acquérir ces ressources-là. Et donc, c'est toute la difficulté de définir la limite de notre système. Où est-ce que je l'arrête, mon système? Est-ce que je vais tenir compte, entre guillemets, de l'empreinte écologique pour dire, globalement, ma ville, elle est comme ça? Ou est-ce que je me cantonne à son espace de localisation et j'en détermine éventuellement la limite spatiale, peut-être en fonction de définition, où je vais tenir compte du nombre d'actifs, de la localisation des actifs qui viennent travailler en ville, par exemple, pour bien essayer d'avoir à la fois la morphologie, mais aussi les temps de déplacement et l'extension potentielle de ma ville. Donc, je pense qu'il est important de bien se rendre compte que la ville, elle est dynamique, elle évolue en fonction de ses capacités technologiques, elle va évoluer en fonction, bien entendu, des innovations, parce qu'elle est un creuset, certes, de pollution, d'inégalités, et ainsi de suite, mais aussi le lieu des innovations. C'est le lieu de la connaissance et de l'innovation. Donc, la ville, elle a des côtés très positifs aussi. Souvent, on la voit que du côté négatif. Donc, un des points importants, et ça revient ce qui a été répondu tout à l'heure, est-ce que la ville devient de plus en plus importante dans vos recherches? J'aurais tendance à dire on aurait plutôt intérêt à de plus en plus la prendre effectivement en compte. Donc là, vous avez Las Vegas en 30 ans, multiplié par 4, dans un climat semi-aride, où tout ce qui est irrigation pose des problèmes et va poser des problèmes en termes d'accès à la ressource. Sur un plan damier typiquement américain, où il n'y a pas de problème, enfin, normalement l'extension se fait à plat, c'est réellement quelque chose qui va impacter fortement les ressources, les caractéristiques en termes de bilan radiatif, en termes de bilan hydrique, et ainsi de suite. Forcément. Ça, c'est Santiago, multiplié aussi à peu près par 2,5-3. Avec des caractéristiques d'altitude, avec une forte croissance urbaine qui se fait aux dépens de l'agriculture périurbaine, des maraîchages, et qui là aussi transforme fondamentalement non seulement l'aspect physique, mais aussi l'aspect social, puisque tous ces agriculteurs qui travaillaient tout autour, eh bien, ils vont être obligés d'aller trouver du travail ailleurs et a priori en ville. Donc, les retombées de ces modifications sont relativement importantes. Et ça, c'est Tripoli. Oups, pardon. Donc, là aussi, une ville qui s'étend sur le bord de mer. Donc, vous savez quels vont être les risques liés, bien entendu, à l'augmentation du niveau de mer. Mais À partir du moment où une ville se déploie de cette façon sur la côte, il y a manifestement aussi des problèmes d'érosion, des problèmes de rejet dans la mer en termes de pollution, des problèmes d'équilibre par rapport à ces cultures qui étaient initialement irriguées et dont les sols maintenant se minéralisent, et ainsi de suite. Donc les villes sont des transformateurs du paysage qui peuvent être très brutales. Ce sont des éléments actifs dans la modification de le type d'occupation du sol et donc dans les répercussions que ces modifications peuvent avoir au niveau des flux. Et sachant que on en est quand même en phase de transition urbaine mondiale, hein, dans les années 2050, on prévoit que plus de 70% de la population sera dans des sites urbanisés et que ces capacités de développement des sites urbains se fait de et pas énorme. Hein. Si vous regardez quelles sont les localisations des centres urbains, vous vous apercevez très vite qu'il y a plein d'endroits où il ne peut pas y avoir de ville parce que ce n'est pas possible, c'est trop froid, c'est trop chaud, c'est désertique ou autre. Donc, on n'a pas forcément le choix en termes d'extension. Et donc, on va être confronté à gérer ces extensions urbaines à un moment ou à un autre. Sachant aussi que ce qui est intéressant lorsqu'on travaille sur ce qui est notre cas au labo, sur plusieurs types de villes, on a la capacité de comparer. La comparaison, elle est intéressante parce que il n'y a pas forcément les mêmes systèmes politiques, bien entendu, les mêmes avancées technologiques non plus. Ce qui se fait en PVD en termes d'innovation et en termes de mobilisation particulière, participative ou autre, peut servir éventuellement à éclairer d'une autre façon ce qui se fait dans nos pays à nous. Donc on a tout intérêt à avoir plusieurs champs d'analyse, plusieurs localisations, parce que justement ça s'enrichit. D'autres choses, par exemple, nous avons travaillé sur les risques à la fois en Afrique et en France, et simplement de se rendre compte que le mot risque n'existait pas au Sénégal. Ça voulait dire que le concept du risque n'existait pas. Et que donc, ce n'est pas le risque qu'ils voyaient, c'était simplement un état, entre guillemets, naturel d'une expansion de la ville. Là, il s'agissait des canaux à ciel ouvert, avec tout ce que ça peut avoir comme problème de détritus, problème sanitaire, problème de nidification des anopheles, et ainsi de suite. Donc, si le mot risque n'existe pas, il n'y a pas de raison de se protéger contre le risque. Et donc, comparer des villes, c'est aussi important que ça. Ça veut dire qu'on ne travaille pas forcément sur les mêmes sémantiques, hein, et sur les mêmes référents et sur la même façon d'envisager la façon dont la ville se construit. Et puis, en plus, ça permet aussi d'avoir une meilleure robustesse dans nos méthodos, puisqu'on essaie d'appliquer les choses sur des sites différents. Cette carte, elle vous montre en fait où sont les sites qui se développent. Donc les parties en noir, ce sont à la fois les zones qui sont soumises à des risques sismiques, volcaniques, cycloniques, mais ce sont aussi des zones qui sont très peuplées maintenant et qui vont se développer en termes de population. On se rend bien compte que souvent, ces villes sont dans des zones de pays en développement ou en émergence. On a une possibilité de regarder comment ces populations-là, éventuellement, se tiennent prêtes. Alors, est-ce que l'adaptation fait partie de leur culture? Est-ce que l'adaptation fait partie de leur point d'intérêt? Ça serait peut-être... On pourrait se poser la question. Mais comment, en tout cas, à l'heure actuelle, elles essaient de faire au mieux? Donc je vous rappellerai que par rapport aux modifications climatiques, il va y avoir une montée des eaux, des rythmes saisonniers qui vont changer, des épisodes paroxysmiques. Et quand on a vu ce que ça a donné l'année dernière sur Manille, on peut se poser des questions sur justement la difficulté de travailler sur des villes en PVD avec... j'allais dire, des problèmes qui sont liés non seulement à des très grandes inégalités socio-spatiales, des très grandes inégalités environnementales par rapport à tous les modèles qu'on va pouvoir mettre en place, parce que c'est clair qu'on n'est pas du tout égal devant la façon dont on peut les gérer. Et puis des impacts bioclimatiques, on l'a déjà dit, il y a une adaptation des aspects végétation. À l'heure actuelle, on peut suivre des plantes qui migrent avec des plantes invasives qui prennent ensuite la place dans la succession, mais aussi, du coup, peut-être des problèmes qui vont être liés au niveau des espèces, notamment à plus de problèmes sanitaires, parce que résistant à certains éléments. Donc là, rapidement, différents types de risques, enfin en tout cas de problèmes, sachant que d'autres pays comme la Hollande et sur Amsterdam et puis Copenhague ont trouvé des moyens de s'associer à l'eau de façon très particulière, en gérant la montée des eaux sur des maisons bateaux qui permettent de se moduler. Donc là, vous avez les cyclones et puis les tempêtes qui, manifestement, donc ça, c'est la 99 qui a fait énormément de dégâts, mais je vous rappellerai celle qui est passée il n'y a pas longtemps, en France aussi, avec Cynthia. Donc on n'est pas du tout à l'abri et ça pourrait, d'après les simulations, devenir de plus en plus fréquent, ce genre de choses. Alors, la ville, qu'est-ce que c'est ? La ville, c'est d'abord un rapport entre l'homme, la société, et une localisation. Donc on va dire l'environnement. La ville, c'est fait d'individus. Ces individus, ils ont des caractéristiques, ils ont éventuellement une éducation, un comportement, et ils vivent en groupe. Et c'est la totalité que l'on va considérer comme le système, donc la composante ou le sous-système démographique, population, société. C'est important parce que si on veut parler comportement, si on veut parler adaptation, si on veut parler, aborder l'autre versant, le côté social de l'adaptation, il faut qu'on puisse comprendre quelles sont les valeurs de ces populations, quelles sont les croyances de ces populations, quelles sont les pratiques de ces populations, quel est le niveau d'éducation qui est nécessaire pour aborder ces phénomènes-là, et éventuellement, quelle est la confiance qui est donnée par la population à ce qu'on peut être amené à lui dire. Oups. Un autre sous-système important, c'est le sous-système entre guillemets naturel. Donc, tout ce qui est ressources, tout ce qui est énergie, tout ce qui permet d'avoir accès à de la nourriture, ce sous-système-là, il a son rythme, il a ses caractéristiques. Même en ville, on a une influence de la végétation, on a une influence de la ressource hydrique, on a des espèces végétales et animales invasives. Donc tout ça rentre en ligne de compte lorsque l'on aborde le système urbain. Et bien entendu, ce sous-système-là a des interactions relativement fortes avec le précédent. Et il a des interactions fortes avec le système, entre guillemets, bâti. Le bâti, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se fait en surface et ce n'est pas uniquement des maisons. Donc, il va y avoir une interaction en 3D, sous-sol et élévation comprise, avec non seulement des bâtiments, mais des infrastructures qui sont à l'heure actuelle les plus gourmandes en espace, les parkings, les routes, les nœuds de transbordement entre différents types de trafic, par exemple. Donc, tout ça, en fait, impacte très fortement mon système naturel, les enveloppes physiques et les écoulements, j'allais dire, naturels. Et bien entendu, ça va avoir des relations avec la société qui va normalement occuper, utiliser, apporter une fonction à cet espace bâti. Le tout est géré par un système socio-économique, politique. Donc on a parlé de gouvernance ce matin. C'est bien en fait de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire la manière dont on décide, on régule, on contrôle, on gère les flux, les stocks à différentes échelles, au niveau de ce système urbain, mais aussi au niveau du système des systèmes urbains, donc de l'ensemble des systèmes. Sachant que le passage d'échelle, bien entendu, entre, par exemple, si je prends le bâti, entre mon bâtiment, ma maille, mon quartier et ma ville, va avoir le passage d'échelle n'est pas forcément évident à faire, et que ces passages d'échelle sont aussi à prendre en compte au niveau temporel, puisque chacun a sa dynamique propre. Donc chaque élément a sa dynamique. Les temporalités, on l'a vu ce matin aussi en termes de gouvernance, vont du moment de la décision au moment de la réalisation. Et lorsqu'on parlait de voir les impacts d'une décision, par exemple, pour favoriser la mise en végétation d'un quartier, eh bien, globalement, il faudrait pouvoir y revenir 50 ans après pour essayer d'avoir une idée de l'impact réel. Donc, la différence qu'on a avec ces systèmes-là, c'est qu'on ne peut, à la limite, aborder une réflexion sur de potentiels impacts si on sait simuler, puisqu'il n'est pas question de mettre une ville en bouteille et qu'on n'a pas 50 ans pour obtenir éventuellement une analyse des impacts. Donc, il faut bien qu'on puisse avoir des modèles qui nous permettent de simuler, de comprendre, de projeter la façon dont la ville va évoluer. Et puis, vous avez d'autres, dans le phénomène des interactions entre systèmes, eh bien, vous avez les risques. Alors, les risques liés au changement climatique, qui peuvent être liés à des risques sanitaires, par exemple, et qui peuvent éventuellement, bien entendu, s'avérer être des risques difficiles à gérer, puisqu'ils sont en domino. Un point que je voudrais signaler, c'est que dans ces systèmes-là, il y a un phénomène important, c'est l'information. Cette information, elle est de plus en plus intense, rapide, et elle se multiplie sous différentes formes. Et c'est une des difficultés que l'on a pour aborder la ville en tant que système complexe. Puisque cette information, elle n'est pas top, bottom ou bottom-up, pas du tout. Elle peut être totalement transversale, elle peut être multiple, elle peut avoir énormément de formes particulières, de la mobilisation individuelle à la mobilisation d'un groupe, à une décision politique. Donc, c'est relativement complexe et difficile à aborder. Donc, les concepts qu'on peut utiliser, dont on a parlé ce matin, pour certains, pas tous, notamment pas la durabilité, ce qui était assez étonnant. On a parlé une fois, je pense, de la complexité. Or, travailler sur la ville, c'est forcément aborder la complexité. Cette complexité, elle va varier en fonction de l'âge, de la taille, du moment où on va observer cette ville. On a parlé d'échelle, mais on n'a pas parlé des moments ou de la bonne qualité de l'instrument de mesure pour observer les villes. Ce n'est pas toujours le même. Et de la diversité, étant un élément essentiel de tout système. La durabilité, jusqu'à présent, on était plutôt sur une vision faible de la durabilité. On peut se poser la question sur la prise en compte d'une vision forte, c'est-à-dire de complémentarité de facteurs, et non pas uniquement se baser sur une confiance démesurée sur le progrès. Et la vulnérabilité, donc là, vous avez deux cas. Vous avez le cas de l'avalanche de Saint-Colomban, les Villards en 81, où on a construit sur un couloir d'avalanche. Il n'est pas question de savoir qui est responsable ou pas, mais on pouvait le prévoir. Il y a eu, comme pour Cynthia, des choses qui ont fait que ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Or, a priori, il y avait une connaissance de la vulnérabilité potentielle de ces constructions-là. Le Chili, dernièrement, c'est un pays qui est hautement sismique, c'est un pays qui construit antisismique, c'est un pays où il y a eu nettement moins de dégâts qu'à Haïti, par exemple, qui s'est retrouvé complètement démuni et où on avait peu de possibilités d'intervention cohérente et efficace. Sans l'aide extérieure, Haïti n'y serait pas arrivé. Le Chili n'a pas demandé d'aide extérieure. Donc il y a aussi, quand on réfléchit à un socio-écosystème au niveau de la ville, à prendre en compte toute cette capacité de résilience, de résistance, qui peuvent être variables selon les villes, bien entendu, mais variables aussi en fonction du temps et de la maîtrise de la technicité. J'ai quasiment fini. Donc au niveau, si on essaie de mêler complexité et incertitude ou méconnaissance, déficit de connaissance, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs situations. Il y a des cas où globalement on considère que le risque est acceptable et donc on va laisser les situations perdurer. Ça, il y a une haute complexité, mais globalement l'incertitude est faible. Donc la grippe, par exemple, peut en être un exemple. Il y a des situations qu'on maîtrise, donc c'est moins complexe, c'est moins incertain. Et là, ben, vous avez tout ce qu'on sait sur l'amiante, par exemple. On sait qu'il faut l'enlever. Donc ça demande là des moyens et une volonté politique de le faire, mais globalement, on sait. Vous avez des situations dont les conséquences sont prévisibles. Vous avez hier, je n'étais pas là, une présentation sur la Nouvelle-Orléans. Ben, globalement, il y avait déjà des digues, donc on pouvait imaginer qu'ils avaient déjà une idée du risque encouru. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu un effet domino d'enchaînement décisionnel qui n'a pas été suffisamment pris en compte. Et puis, vous avez des choses qui sont totalement imprévisibles, même si on suit les volcans en Islande. Le fait que ce volcan éclate, c'était prévisible, à un moment ou à un autre. Le fait qu'il soit complètement... Enfin, que les émanations totalisent totalement... Le ciel européen, ça, c'était pas du tout prévisible. Hein? Plus ou moins peut-être. Mais globalement, à cette échelle-là, avec une rapidité de ce genre-là, je pense pas qu'on aurait pu le faire. Donc, il y a des situations qui, en fonction de la complexité et de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on prévoit, peuvent éventuellement être pris en charge. Donc, je vais mettre rapidement les animations. Donc, il se trouve qu'on est dans une complexité croissante avec multiplication des interactions des composants. Par rapport au changement climatique, on peut se poser la question du décalage entre ce qu'on pensait connaître et ce que l'on sait avec clairement ce qui se passe, entre ce qu'on mesure, la conscience du phénomène des phénomènes qui apparaissent à l'heure actuelle, des postures différentes qu'il faudrait éventuellement prendre et des choix politiques et le temps qu'il faut pour que ces choix politiques aient un retentissement, un impact, un effet. Donc il y a différents types de scénarios qui ont été avancés. Moi, je penserais plutôt qu'il faut mixer les choses, il faut atténuer et adapter. Parce que l'adaptation, c'est peut-être sur du plus long terme. Par contre, là où on doit se poser la question, c'est sur quel type de modèle on va se poser. Est-ce qu'on va favoriser les mégalopoles énormes avec des densités urbaines très importantes, avec des besoins en termes de ressources qui vont devenir de plus en plus difficiles éventuellement à assurer? Ou est-ce qu'on va se reporter sur des schémas de villes en chapelet, donc des systèmes de villes plus petites, en connexion, qui permettent quand même d'assurer un bassin d'emploi suffisant, mais qui vont peut-être moins impacter les ressources et seront peut-être moins impactées aussi par le climat, du coup, puisqu'il y a des boucles de rétroaction. Et une des questions que je me posais, la ville, c'est une masse d'inertie. Hein, une fois que c'est construit, on ne peut pas la déplacer, ou alors il faut qu'il y ait une bombe qui tombe dessus. C'est très complexe. Alors, la difficulté, c'est toujours de savoir par où on va commencer pour comprendre ce qui se passe et comment. En écoutant ce matin, je me disais, ce qu'il faudrait, c'est peut-être trouver une compétence de systématicien, pas uniquement pour faire des systèmes complexes, mais pour pouvoir interconnecter les connaissances qu'on peut avoir. Parce que manifestement, c'est ça qui est souvent le plus compliqué. C'est quelqu'un qui permettrait d'être suffisamment curieux pour identifier ce qui se fait dans des endroits divers et dans différentes disciplines et pour se dire ça peut marcher, on peut éventuellement essayer de réfléchir ensemble et favoriser cette émergence-là. Donc, au niveau systémique, on va normalement vers idéalement une ville saine. Donc, on peut adapter la ville, on peut habiter autrement, c'est-à-dire faire en sorte que les comportements se modifie, avec, en favorisant par exemple les villes compactes. Favoriser les villes compactes, ça veut dire habiter, adapter effectivement, travailler sur le bâtiment, la maille, la ville, réfléchir sur les matériaux, mais réfléchir du coup aussi sur la formation de ceux qui construisent la maison ou le bâtiment. Et très souvent, il y a un décalage important entre ces deux éléments. La ville compacte, c'est tout à fait paradoxal aussi, parce que si on considère que la densité est nécessaire, hein, si on densifie la totalité des constructions, on va en fait créer plus d'îlots de chaleur urbain. Donc, comment faire que la compacité des villes puisse aussi éviter ce genre d'éléments? Est-ce qu'il faut introduire de la végétation? Comment est-ce qu'on va l'introduire? Sous quelle forme? Et ainsi de suite. Là, on va se retrouver clairement dans un problème de mesure et de couplage. Le génie du bâtiment fait ses modèles thermiques de bâtiment, avec une des spécificités, et le CSTB a très bien fait un certain nombre de choses. Les aspects climataux, on a vu ce matin que les échelles n'étaient pas toujours appropriées à l'échelle de la ville, mais il y en existe. Il existe de plus en plus de développements qui lient climato, végétation et bâtiment. Ce sont des pistes, cela dit, ce sont toujours là sur des petites, des grandes échelles en géographie et des petites échelles au niveau de la ville, c'est-à-dire sur des mailles. Après, on ne sait pas comment généraliser, parce que ça nécessite tellement de connaissances et d'introduction des données qu'on bloque à ce moment-là. On ne peut pas travailler sur la ville et sur le bâtiment si on oublie la mobilité. La mobilité, c'est ce qui va faire bouger la ville, fonctionner la ville et organiser la ville spatialement et temporalement. À l'heure actuelle, on se rend compte que si on ne travaille pas à la fois sur la temporalité et sur l'espace, on va louper la compréhension d'un certain nombre d'organisations. On peut, bien entendu, favoriser les transports en commun par rapport aux véhicules ou les mobilités douces. Si on ne comprend pas pourquoi les populations ne prennent pas le vélo ou ne prennent pas le tram, on ira dans le mur aussi. Donc, adapter, ça veut dire aussi se rendre compte que la société vit, évolue de façon éventuellement très diverse, qu'elle a des besoins particuliers. Donc, il y a des enquêtes, il y a un certain nombre d'analyses qui sont faites. Là encore, on devrait pouvoir tirer parti de ce qui est fait. On a parlé de la ville verte en mettant de la végétation sur les murs, sur les toits, sur le sol. J'ai pas vu beaucoup d'analyses de coûts ni de gains. Hein, il y a quelques études qui ont été faites, mais allons jusqu'au bout. Je connais des entreprises d'étanchéité qui vous vendent de la végétation sur le toit. Quand on leur demande pourquoi tel type de végétation ici et un autre ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment un impact? Est-ce que vous utilisez certaines plantes à des fins bien spécifiques? Ils sont incapables de vous dire. Or, il faut bien entendu qu'on réfléchisse qu'est-ce qu'on met et où, hein, dans un milieu urbain. Nous, on a travaillé sur l'impact des arbres par rapport aux polluants atmosphériques. On s'est rendu compte que si on mettait des arbres dans certaines rues, on aggravait le problème. Donc, il faut qu'on puisse être aussi efficace dans les conseils que l'on peut donner. Et puis, travailler sur l'aspect énergie, c'est bien, effectivement. Écologie, c'est mieux. Et puis, social, il y a l'acceptabilité, il y a l'esthétique et il y a le coût d'entretien, entre guillemets, des familles par rapport à ça. Et puis, quand vous avez de la végétation sur un mur, eh bien, ça amène des araignées, ça amène plein de choses. Est-ce que les gens en sont conscients? Est-ce qu'ils le veulent? Enfin, il y a ensuite toute une part des choses à faire. Et enfin, la ville saine. On vit dans des villes qui sont hautement inégales, enfin, où il y a des inégalités flagrantes au niveau social, au niveau spatial, au niveau environnemental, par rapport au bruit, par rapport à la pollution, par rapport à l'exposition au risque, et ainsi de suite. Dans les villes en développement, c'est parfois pire. Donc, bien entendu, on va se poser la question sur comment est-ce qu'on détecte ces inégalités, comment est-ce qu'on les caractérise, quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre à l'heure actuelle. J'ai entendu aussi ce matin, hier, on a parlé du plan climat, on n'a pas tellement parlé des nécessités, des obligations de ces communes à mettre en place ce genre de choses, avec peu de moyens, avec peu de connaissances, souvent très rapidement, alors qu'ils n'ont pas suffisamment le recul pour le faire. Et donc, il y a une brèche là pour un certain nombre de bureaux d'études qui commencent à, entre guillemets, apporter leurs connaissances. Mais est-ce qu'on est suffisamment costaud, j'allais dire, pour pouvoir effectivement aborder ça comme ça? Et bien entendu, des problèmes de gouvernance avec des temporalités un homme politique n'a pas les mêmes temporalités que la construction d'un quartier. Et donc, globalement, celui qui va proposer la construction du quartier, c'est jamais lui qui va ensuite récupérer les problèmes éventuellement qui sont liés à cette construction-là. Donc, bien entendu, tout ça rentre en ligne de compte. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.